Merci, chers collègues, merci de m'avoir convié à cette célébration du si beau livre de Jacques Frinel. Je ne vous cache pas mon embarras, je ne suis pas familier des réunions de l'Institut Michel Villet, je ne suis pas au courant du modus operandi, je n'avais pas particulièrement préparé de synthèse des notes que j'ai prises tout au long de la lecture de ce livre. Et puis, Daniel Soulas-Larivière a déjà ouvert le débat. Alors, j'ai un peu de scrupule à revenir sur ce que j'ai lu dans le livre de Jacques Frinel, alors qu'il faudrait peut-être que je rebondisse à mon tour sur ce qu'a dit Daniel Soulas-Larivière. Je vais peut-être essayer de faire l'un d'abord et l'autre ensuite. Alors, je suis embarrassé aussi parce que je ne suis pas historien. Droit, je suis un simple juriste contemporanéiste, comme l'a dit Jacques Frinel, et je pense que ma place aurait été peut-être mieux ici que là. En tout cas, je me rassure en me remémorant ce que disait Henri Batifol, l'intelligence du droit passe par la connaissance de sa genèse historique. Alors, c'est donc pour moi peut-être de mieux comprendre le droit d'aujourd'hui, l'institution judiciaire d'aujourd'hui, après avoir lu ce livre de Jacques Frinel, et je peux le rassurer sur ce point, il formait l'espoir que son livre cheminerait parmi les juristes contemporanéistes. Il a cheminé, pour ce qui me concerne, je crois qu'il est allé droit à la cible. Le livre de Jacques Frinel est passionnant, et je conseille aussi la lecture à tous. Il me semble que c'est un nouveau chapitre au roman du désamour de la France avec sa justice. La France, et la Rivière vient de le redire, a vraiment un problème avec sa justice. Il a parlé de problèmes familiaux insolubles, il a dit qu'on assistait à la répétition du même sous une autre forme. Alors je ne sais pas si c'est exactement le même sous une autre forme, c'est un point de débat. Mais il est clair, en revanche, que le problème posé par l'état de la justice court ainsi depuis le XIIIe siècle, même s'il a pu emprunter des voies différentes ou des formes différentes. Et c'est un problème paradoxal, avec d'un côté une justice dont on craint le gouvernement, une justice à laquelle on prête parfois les desseins noir, que ne dit-on pas du gouvernement des juges, qui est comme une réponse contemporaine à l'équité des parlements, mais de l'autre, un gouvernement qui maltraite sa justice, qui maltraite l'institution, la réforme de la carrière judiciaire en était, je crois, une illustration, qui maltraite aussi ce qui rend de la justice parfois traitée de petits pois. C'est donc une vieille question, c'est une vieille question d'une vive actualité, l'actualité qu'ont évoqué Jacques Frinel et Daniel Soulas-Larivière, très chaude, jeudi dernier, audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, le procureur général Nadal, qui émet publiquement et pour la première fois à ce niveau de la hiérarchie judiciaire du parquet ses réserves à l'égard de la réforme envisagée de la procédure pénale avec la suppression du juge d'instruction sans modification corrélative du statut du parquet. Et puis aussi, au-delà des réserves de M. Nadal, quand même, ce coup d'éclat du premier président qui nomme à la chambre criminelle de la Cour de cassation celui qu'on n'attendait pas, plus exactement, qui ne nomme pas à la chambre criminelle de la Cour de cassation celui qu'on attendait et qui venait du parquet général de la Cour de cassation. Et l'on a ainsi, je crois, résumé au cours de cette audience à la fois, bien sûr, l'affirmation constante par la magistrature du siège de son indépendance, mais aussi la revendication par la magistrature du parquet de cette indépendance qui lui fait encore défaut. Alors, de cette actualité, de l'état de justice, c'est-à-dire de la place et du rôle de la justice dans l'état de droit, Jacques Krinen propose une mise en perspective historique qui constitue une narration en effet passionnante de la manière dont la justice ancienne, la magistrature ancienne a conçu sa fonction au sein de l'architecture des pouvoirs étatiques. Et comment, au-delà de cette définition, de cette conception, elle a contribué elle-même à la manière de se mettre en scène, de représenter, autrement dit, sa place, son rôle au sein de l'architecture des pouvoirs étatiques. Et c'est bien en quoi on peut parler effectivement d'idéologie. Ce livre est une magnifique histoire de l'idéologie de la magistrature ancienne et la lecture livre ne dément pas son titre. Le livre montre bien, en effet, comment cette idéologie s'est élaborée depuis le XIIIe siècle et comment cette idéologie est celle, j'allais dire, de la magistrature ancienne, c'est-à-dire d'une magistrature, ce qui ouvre peut-être un champ de questions sur lesquels on reviendra. Pour ce qui concerne l'idéologie, comme ensemble de savoir, de représentation, les choses sont extraordinairement convaincantes sous la plume de Jacques Krinen. J'espère ne pas me tromper en résumant mon propos ainsi, mais il me semble que cette idéologie à la fois judiciaire et politique. C'est une idéologie judiciaire parce que c'est une idéologie relative à la justice. Relative à la justice qui est conçue depuis l'origine comme un attribut essentiel de la souveraineté. Moins une prérogative d'ailleurs de la souveraineté qu'une tête de la souveraineté. Et j'ai été extrêmement intéressé par ce que Jacques Krinen écrit au sujet de la justice due, qui soulève aussi d'autres questions du point de vue de la procédure sur lesquelles on reviendra peut-être. Et cette idéologie relative à la justice, c'est une idéologie des juges. Voilà, ce sont les juges qui élaborent eux-mêmes la manière dont ils conçoivent leur statut, leur rôle. C'est une idéologie qui les place au cœur du pouvoir, mais c'est une idéologie qui apparaît quand même évolutive. On a parlé de représentation, on a parlé de dépossession. On a l'impression que cette idéologie emprunte des fondements différents au fur et à mesure que s'écoulent les années, les siècles, depuis la délégation jusqu'à la consubstantialité à la personne même du prince, pour en arriver avant la Révolution, dans les 50 années qui précèdent la Révolution, à cette idée qu'en réalité la magistrature représente moins le souverain que la nation. Et à partir de ce moment-là, la magistrature est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. C'est donc une idéologie judiciaire. Et bien évidemment, lorsque l'on pose la question des rapports de la magistrature et du souverain lui-même, il est clair que cette idéologie est une idéologie politique. La magistrature ancienne nous renvoie à la magistrature, donc à la justice, définie comme pouvoir de dire le droit, comme pouvoir de rendre la justice, en tranchant les litiges. Mais on voit bien, au fur et à mesure que le temps passe, comment, en vérité, cette magistrature ancienne s'était moins pensée comme une juridiction que comme une assemblée. Je crois que ce sont vos propres termes dans le dernier chapitre de votre ouvrage. Et on mesure à quel point ce caractère politique de l'idéologie de la magistrature ancienne a pu imprégner à la fois la conception des institutions, mais aussi la conception de la procédure. Il y a bien sûr une histoire politique des institutions. Quand on parle de la justice, on parle d'un pouvoir judiciaire séparé des autres pouvoirs, Et on voit bien comment ces juges parlementaires ont conçu le rôle comme étant tout aux côtés du roi, comme participant, c'est ce qu'écrit Jacques Crinen, à une sorte de royauté collégiale. Ils s'estiment princes de justice et ils veulent avoir tous les attributs du prince, alors que ces attributs leur échoient par délégation ou que ça leur échoit par consubstantialité. On parle de justice parlementaire, mais la justice parlementaire renvoie évidemment pour nous, aujourd'hui, juristes contemporains, au Parlement, c'est-à-dire au pouvoir législatif. Et c'est vrai qu'il y a cette ambiguïté-là dans la formation de l'idéologie ancienne entre la fonction purement juridictionnelle et la fonction purement politique. Et lorsqu'on lit Jacques Crinen, on comprend mieux effectivement ce qu'a pu écrire Winston Churchill, lorsqu'il a dit que 1688 avait évité 1789, et c'est bien effectivement le sens de la démonstration de Jacques Crinen, lorsqu'il explique que si les choses s'étaient mieux passées, s'il n'y avait pas eu cette opposition entre la bureaucratie bourbonienne et la magistrature parlementaire, eh bien on aurait peut-être assisté à la naissance d'une sorte de parlementarisme français à l'anglaise. Il y a là une ambiguïté, j'allais dire génétique, qui explique peut-être l'origine des malentendus à laquelle faisait allusion Jacques Crinel. Mais cette histoire politique, elle n'est pas seulement perceptible d'un point de vue institutionnel, elle l'est aussi, et ça c'est moins dit dans la Vulgate, d'un point de vue procédural. Moi je me suis régalé en lisant ce livre, Jacques Crinel, car j'ai toujours été convaincu qu'il manquait en France et qu'on avait besoin d'une histoire politique de la procédure civile. Et là, de toute évidence, en vous lisant, on a les matériaux qui permettent de penser ce que pourrait être une histoire politique de la procédure civile. C'est pas évident, l'histoire politique de la procédure civile. On peut penser davantage à une histoire politique de la procédure pénale. Liberté fondamentale, la démocratie, les droits de l'homme, contre l'État, la puissance souveraine. On peut aussi facilement penser une histoire politique du contentieux administratif, avec la séparation des pouvoirs, exécutifs et judiciaires, une histoire politique de la procédure civile. Une histoire politique de la procédure qui a pour objet de trancher les litiges d'intérêt privé. Quel intérêt ? Erreur. Intérêt fondamental. Parce que la procédure civile, et ça, Jean Hilaire l'avait aussi un peu montré à travers ses travaux sur les voies de recours, notamment l'appel, la procédure civile a été un des instruments de la conquête du pouvoir capétien et de la consolidation de la monarchie capétienne contre la justice féodale et la justice du clergé. Et il n'est pas étonnant dans ces conditions que Domas, le grand Domas, au XVIIe siècle, traitait de la procédure civile, non pas dans son traité des lois civiles dans l'ordre naturel, j'allais dire non pas dans un traité de droit privé, comme on le ferait maintenant, mais il traitait de la procédure civile dans son traité du droit public. Il y a là, je crois, une indication très forte de ce que la procédure civile, l'histoire de la procédure civile, participe bien de l'histoire de l'État français. Et cette dimension politique explose au moment de la préparation du code de 1667. Et ce que vous dites là, des réunions entre les bureaux de Colbert et les députés du Parlement de Paris autour de la Moignon sont extraordinaires. Alors pour cela, c'est vraiment une lecture très très enrichissante qui apprendra beaucoup aux historiens et au-delà des historiens, aux juristes de droit contemporain, y compris, j'allais dire, surtout aux civilistes. Alors, on est éclairé un petit peu sur ce qu'est cette idéologie, idéologie de la magistrature ancienne. Alors, c'est peut-être là qu'il y a davantage de questions qui se posent, parce que cette magistrature ancienne, elle est quand même bien typée, elle est bien définie, délimitée. Hein. On parle de la magistrature parlementaire. On ne parle pas de la magistrature des cours inférieures. Et il y a tout au long du livre de Jacques Rinel une distinction qui court entre les juges souverains, ceux des parlements, et les juges des juridictions inférieures. Les juges de cour souveraine, parce qu'ils participent de la dignité du prince, sont au-delà d'un certain nombre d'obligations, de devoirs, comme la motivation des décisions de justice. Ce sont des juges d'équité, à travers l'interprétation, ils font des règles. Tandis que les juges inférieurs, eux, eh bien, sont tenus d'un certain nombre de devoirs plus contraignants. Ce sont des juges de rigueur qui ne disposent pas de liberté par rapport aux règles. Alors on parle simplement de cette magistrature-là, de cette magistrature parlementaire. On parle même plus précisément encore de la magistrature du siège. Quid de la magistrature du parquet ? Comment apparaît-elle ? Comment se situe-t-elle dans cette évolution progressive de l'idéologie de la magistrature ancienne ? Participe-t-elle de l'idéologie de la magistrature ancienne ? Et puis, l'on ne parle pas non plus d'un certain nombre de juges qui participent pourtant de l'état de justice. Je pense par exemple aux juges consulaires qui ont été créés par le pouvoir royal, contre, je crois, l'avis de la justice parlementaire. Alors cette justice-là avait-elle une idéologie ? Cette idéologie était-elle celle de la justice parlementaire ? Était-elle différente ? Il y a donc quelque chose de très précis là qui est analysé par Jacques Rinel lorsqu'il parle de l'idéologie de la magistrature ancienne. Et du coup, on verra ensuite ce qui sera écrit et dit dans le deuxième tome, l'emprise contemporaine des juges. On peut avoir effectivement le sentiment d'une continuité qu'exprime Daniel Sillier de la Rivière hein, quand il parle de la répartition des mêmes problèmes sous une autre forme. Mais est-ce que cette impression de continuité n'est pas trompeuse en vérité ? S'agit-il bien de la même magistrature ? Quid aujourd'hui de cette magistrature ancienne ? Est-ce que la défense de l'indépendance de la magistrature est toujours bien localisée dans les cours d'appel, qui sont les héritières des parlements de l'Ancien Régime ? Ou est-ce qu'elle n'est pas plutôt localisée à la Cour de cassation ou au Conseil d'État, qui sont les héritières des conseils du roi contre lesquels luttait la magistrature parlementaire précisément ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des déplacements ? Autrement dit, et puis que dire aujourd'hui de la magistrature et de son idéologie dans ses rapports avec l'État quand on peut se poser aujourd'hui la question de l'existence d'une justice en dehors de l'État, d'une justice sans État, que ce soit avec le développement auquel on incite de plus en plus des modes alternatifs de règlement des conflits, ou que ce soit bien sûr avec les progrès d'une justice véritablement authentiquement internationale. Voilà, donc j'attends moi aussi avec beaucoup d'impatience le deuxième volume de cette fantastique histoire de l'idéologie de la magistrature ancienne. Merci.